cette série de messages, leçon de roi, si on peut afficher l'image, elle y est encore. Leçon de roi pour régner dans la vie. Est-ce que nous régnons dans la vie ou est-ce que c'est la vie qui nous impose ses lois? Est-ce que c'est le quotidien? Est-ce que c'est les circonstances qui nous écrasent? Ou est-ce que par la grâce de Dieu, la semaine dernière on voyait cette réalité que c'est seulement par la grâce abondante de Dieu qu'on peut régner véritablement dans la vie. Alors c'est pas de régner sur les gens, ça on aimerait bien avoir du pouvoir sur les gens qui nous entourent, mais c'est pas ça, c'est régner d'abord dans nos cœurs. Et on a parlé la semaine dernière de Saül. Saül qui était ce roi très grand, un roi de taille, qui était grand aux yeux de Dieu dès l'instant où il était petit à ses propres yeux. Le problème, c'est que son cœur s'est levé pour se perdre. Et la leçon qu'on a tirée de ce roi, c'est qu'il faut, cultiver l'humilité dans notre cœur. On est dans un monde aujourd'hui où pour se valoriser, il faut qu'on soit le plus grand que les autres. Mais c'est totalement le contraire de ce qu'enseigne la parole de Dieu. Si vous voulez que le Seigneur vous élève, alors humiliez-vous sous sa main puissante. Et la parole de Dieu nous dit qu'il nous élèvera. C'est à l'inverse de ce qu'on entend aujourd'hui. Si nous voulons régner dans la vie, il faut cultiver l'humilité. Mais aujourd'hui, je voudrais voir ce qui est écrit là. David, un roi de cœur. David, c'était quelqu'un qui a été choisi par le Seigneur. On va aller dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, verset 21. Regardez le témoignage qui est donné. Alors c'est Paul, l'apôtre Paul qui est en train de parler. Regardez le témoignage qu'a laissé David et comment est-ce que Dieu parle de cet homme. Acte 13, verset 21. Alors c'est bien parce que ça va faire le lien entre Saül et David. Le peuple d'Israël, ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. » Dieu donne ce témoignage par rapport à David. « J'ai trouvé un homme selon mon cœur. » Est-ce que vous aimeriez que Dieu dise ça de vous? Que ça soit le témoignage que Dieu dit? Parce que c'est bien les témoignages des uns et des autres quand on pose la question. Ah, il est bien gentil, celui-ci, oh, il est... C'est bien. Mais le Seigneur qui dit quelque chose pour, par rapport à notre vie, c'est tellement plus fort et tellement plus vrai. Parce qu'on peut donner une apparence aux hommes, mais le Seigneur va au fond du cœur. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi David? Ben parce que avant de régner sur Israël, David, il régnait dans son propre cœur. Et comment est-ce que David régnait dans son cœur? Parce qu'il laissait Dieu régner finalement. Vous voulez être maître de vous-même? Alors abandonnez tout au Seigneur, tout votre être. Laissez le Seigneur prendre la direction. Ça ne veut pas dire qu'il nous, formate, et on devient un robot, on n'a plus de volonté, c'est pas ça. Mais on laisse notre être tout entier baigné dans la volonté de Dieu, et du coup, les décisions, les pensées, les raisonnements, tout ça est influencé par le Saint-Esprit, et la vie de Dieu coule avec abondance de notre vie. Comment est-ce que ça se voit un cœur où Dieu règne? Comment est-ce qu'on remarque cela? Ben, c'est un cœur qui aspire après le cœur de Dieu. C'est un cœur qui accomplit la volonté de Dieu. C'est un cœur qui attire le regard de Dieu. Et c'est un cœur attaché à l'œuvre de Dieu. Voilà quelques points qu'on va partager ce matin. Mais d'abord, ce verset nous montre ce témoignage qui est donné de la part de Dieu envers David. Un homme selon son cœur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi quand vous avez lu cette expression la première fois, si c'est pas la première fois que vous entendez cette expression. Moi, la première fois que j'ai entendu, je me suis dit, mince, quand même, c'est corsé l'affaire. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme, pour moi, je comprenais ça comme ça, un homme comme le cœur de Dieu, qui a le même cœur que celui de Dieu. Et du coup, la barre, elle était haute, hein. Est-ce que vous trouvez que vous avez autant de patience que Dieu? autant d'amour, de miséricorde, de compassion, etc., que Dieu. Et je me suis dit, mince, David, c'était quelqu'un quand même. Et puis après, en étudiant la parole de Dieu, en lisant, en regardant plusieurs versions aussi, j'ai regardé celle du Semeur, il est dit, un homme qui correspond au désir du cœur de Dieu. Et là, quand même, ça change un petit peu. Ça veut dire que le cœur de David, il n'est pas à la même hauteur que celui de Dieu, mais il correspond à son désir. Il cherche à exaucer, à accomplir les désirs de Dieu. Ah, là, c'est plus abordable quand même. Là, c'est plus facile à réaliser. Et puis, un jour, je suis tombé sur ce verset en anglais. A man after his own heart. Ça veut dire un homme après le propre cœur de Dieu. Un homme qui est après le cœur de Dieu. Et je trouvais que ça voulait tout dire. Un homme après le cœur de Dieu. Un homme qui soupire, qui désire. D'ailleurs, on les connaît les psaumes de David, le psaume 63 en particulier, où il dit « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon être soupire après toi. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » On voit le cœur de David qui est soupirant, qui aspire après son Dieu. Et c'est ça un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui est continuellement en train de chercher quel est le cœur du Seigneur. La foi est tellement facile et réduite et tellement faible quand elle ne consiste qu'à demander au Seigneur son secours quand on est en danger. Vous savez les sonnettes, les poignées d'alarme dans les trains là, qu'on brise et qu'on tire et ça arrête tout le train. Souvent notre foi elle ressemble à ça. Souvent, notre communion avec Dieu, elle ressemble à ça. « Seigneur, au secours !» Et on tire la sonnette d'alarme à chaque fois. Et on est obligé d'arrêter tout le mouvement pour que, enfin, le Seigneur nous entende. Alors que David, il avait compris que ça, c'était pas la foi. La foi est tellement plus intéressante quand elle consiste à être après le cœur de Dieu. Qu'est-ce que dit le cœur de Dieu en ce moment sur vous? Ça nous rappelle cette image du disciple bien-aimé. Vous vous souvenez qui c'est le disciple bien-aimé? Jean, l'apôtre de l'amour. Pourquoi est-ce qu'il est devenu l'apôtre de l'amour? Parce qu'il avait pris l'habitude de poser son oreille sur le cœur du Seigneur. C'était le seul qui était pendant le repas. Alors il mangeait allongé aussi à l'époque, hein. Mais pendant le repas, il était couché sur le cœur du Seigneur. Quelle image! Jean couché sur le cœur du Seigneur. David qui aspire après le cœur de Dieu. Et nous? Où en est notre foi? Est-ce que nous sommes comme ça? Ou est-ce que « Seigneur, au secours! Seigneur, au secours! Seigneur, donne-moi! Seigneur, fais ceci! Seigneur, fais cela !» David, lui, écoutez, Jean faisait pareil. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui touche ton cœur? Qu'est-ce qui t'attriste? Qu'est-ce qui te réjouit ?» C'est tellement plus fort et plus profond quand on a notre foi à cette dimension-là que quand on ramène tout à nous. C'est ça un homme selon le cœur de Dieu. C'est ça un homme qui va régner dans la vie, ou une femme d'ailleurs. C'est quelqu'un qui choisit d'écouter le cœur du Seigneur et d'agir en conséquence. C'est tellement plus grand quand on laisse notre foi être modelée par ce que le Seigneur ressent dans notre cœur. Ça veut dire déjà que Dieu ressent des choses. Dieu a un cœur. Bon, mais ça, on n'en doute pas. Quand on a goûté à son amour, on sait que le cœur de Dieu, il est infiniment grand et infiniment rempli d'amour. Et que toutes les fois où on va écouter son cœur, c'est l'amour qu'on va entendre en premier. Le battement du cœur du Seigneur est en train de nous dire à chaque seconde, chaque minute, je t'aime et je t'aime. Parfois, il nous le montre par l'avertissement. Parfois, il va nous reprendre, nous corriger. Parfois, il va nous bénir tout simplement. Comme le fait un père ou une mère envers son enfant. Est-ce que vous voulez être affermi, fortifié, costaud, spirituellement parlant? Alors, tournez avec moi dans 1 Samuel, chapitre 13. Je vous ai même pas laissé répondre, mais je me doute que c'est oui. 1 Samuel, chapitre 13, verset 13. J'espère que vous n'êtes pas superstitieux, parce qu'en plus, on est le 13 aujourd'hui. Hein. 1 Samuel 13, 13. C'est justement le texte dont il est fait référence dans les Actes. Alors c'est Samuel qui est en train de parler à Saül parce que Saül vient de désobéir délibérément à l'ordre que Dieu lui avait donné. Et voilà les conséquences. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme, selon son cœur, ou après son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Dieu voulait que le règne de Saül soit affermi sur Israël. C'est ce qu'il est dit là. Dieu allait affermir, Dieu allait renforcer. Ça faisait presque 40 ans qu'il était et son règne a duré 40 ans. Mais Dieu voulait renforcer et bénir cet homme. Parfois on croit que Dieu choisit, il tire au hasard celui qui va être béni et celui qui va pas être béni. Non, Dieu veut bénir. Mais Dieu va bénir les personnes qui se correspondent, qui se mettent dans les conditions, qui ont le cœur qui correspond au désir du Seigneur. Et le problème de Saül, c'est que c'était déjà la deuxième fois, alors qu'il a été repris avant, la deuxième fois qu'il a désobéi délibérément. Dieu lui dit de faire ça, et lui, il pense qu'il vaut mieux faire comme ça, tout en justifiant, tout en disant « oui, mais je l'ai fait pour Dieu ». Mais ça marche pas comme ça avec le Seigneur. Le Seigneur demande l'obéissance. Un homme selon mon cœur pour accomplir mes volontés. Pour faire. Qu'est-ce que ça, à quoi ça sert d'écouter le cœur du Seigneur, de savoir ce qui réjouit le cœur du Seigneur, de savoir ce qui l'attriste, et puis de croiser les bras et d'attendre que ça passe? Ben, ça sert à rien. Si j'écoute le cœur du Seigneur et que j'entends que le Seigneur me parle, c'est pour être transformé. C'est pour mettre en application ce que le Seigneur va m'apprendre. Saül avait un cœur désobéissant et le contraste, il est fort avec David qui avait un cœur obéissant, prêt à accomplir la volonté de Dieu. Et le Seigneur a béni et a choisi David. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que ça veut dire David? David, ça veut dire en hébreu aimé, chéri. Quand on voit le contexte dans lequel David il a grandi, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé comme ça quand même? On va le lire dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 1er. On va lire quelques versets de la jeunesse de David. Et voir que ce que Dieu va bénir, ce sont des cœurs qui attirent son regard. L'Éternel dit à Samuel, donc 16, 1, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » On va au verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shammah. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Est-ce que ce sont là tous tes fils ?» Et il répondit, « Oui, il en reste encore un, le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, ou on pourrait traduire aussi roux, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour-là, et dans la suite, amen. David, chéri, aimé, ne l'était pas dans sa famille. Ils l'ont appelé chéri et aimé, et pourtant il était dans sa famille méprisé. Le prophète, celui qui régnait en même temps que, d'un point de vue spirituel, il régnait alors qu'il y avait le roi Saül aussi qui régnait. Le prophète Samuel était là, venu dans la ville, et on ne prend même pas la peine d'aller chercher David Pourtant, il a tenu à ce que toute la famille d'Isaïe soit là, mais on ne prend pas la peine d'aller chercher. Je ne sais pas comment est-ce que vous auriez réagi à la place de David si vous aviez su qu'un homme important venait dans la ville et qu'on ne vous envoie même pas vous chercher, alors que toutes les autres de votre famille sont là. Comment vous auriez réagi? Ben, on aurait réfléchi en tout cas, on aurait raisonné. Mais David, il savait une chose, c'est que si aux yeux de sa famille il était méprisé, si aux yeux de sa famille il était pas considéré, il était approuvé, aimé et chéri aux yeux de Dieu. Et qu'est-ce qui vaut mieux à la limite? Être approuvé des hommes ou approuvé de Dieu? Bon, le top c'est les deux, hein. Mais des fois on n'a pas le choix. On a le choix, par contre, d'être approuvé de Dieu si on a le cœur qui attire le regard du Seigneur. Et alors que tout le monde l'avait méprisé, alors que même Samuel s'est laissé avoir par les apparences, il voit un beau jeune homme qui est là, qui ressemble un petit peu à Saül parce qu'il était grand de taille, il était baraqué, il a dit « celui-là, il va faire un super roi ». Il a oublié que Saül, malgré sa grandeur, eh ben, il a mal fini. Et Dieu lui dit cette phrase mémorable. Je me souviens, je l'ai appris par cœur lors d'une leçon d'école du dimanche en Afrique, il y a plus de 20 ans en arrière. L'homme ne considère pas ce que l'homme considère. Ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le regard de Dieu est attiré par des cœurs qui sont tout entiers à lui. Le regard du Seigneur ne se laisse pas tromper par les apparences. Et combien ça serait intéressant d'avoir ce regard du Seigneur ce matin, parce que le dimanche, on est tous bien, on met un beau costume, on donne une belle apparence, mais comment est-ce que nous apparaissons aux yeux de Dieu? Peut-être que celui qui est plein de force et peut-être que celui qui est dans la pleine jeunesse, aux yeux de Dieu, va apparaître comme un vieillard. Peut-être que l'homme qui a beaucoup d'expérience va apparaître devant Dieu comme un bébé. Parce que c'est pas l'apparence qui compte aux yeux de Dieu, c'est le cœur. Comment est-ce que notre cœur apparaît devant Dieu? Et Samuel voyait de beaux gars qui étaient là, son frère, le premier, le frère aîné, donc Eliab, puis les autres qui passent et qui étaient tous un peu de la même carrure, et puis le tout dernier qui était même pas appelé, quand il est venu et qui s'est présenté, Dieu l'a dit, c'est lui. Ceux qui avaient une belle carrure, spirituellement, ils ne valaient rien. Mais celui qui était tout petit, il était rouquin, il a sûrement les taches de rousseur, paraissait un petit visage angélique, on s'est dit, bon, sur lui, on va rien miser, lui, on va lui confier les moutons, ça ira très bien pour lui, voilà son avenir. Mais c'est Dieu qui l'a vu et qui l'a choisi, lui. Et souvenez-vous, Saül. Saül, ça veut dire désiré, c'était celui qui a été désiré par les hommes. La différence est flagrante avec David, qui a été désiré par Dieu lui-même. Parce qu'il avait ce cœur qui acceptait d'aimer le Seigneur, quelles que soient les situations, même s'il était méprisé, il fait de son mieux. Vous savez, parfois on entend des gens qui disent « si ça se passe pas comme moi, j'ai envie, alors je laisse tout tomber ». David n'était pas comme ça. David, on lui a imposé des choses, il s'est soumis, il a accepté de le faire, il s'occupait des moutons. Il chantait de merveilleux cantiques aux moutons. Et il n'avait pas un public qui l'applaudissait. Alléluia, gloire à Dieu, c'est un homme béni. Le mouton, il chantait son cantique, il faisait, voilà le seul remerciement qu'il avait. Mais il ne le faisait pas pour le mouton, il le faisait pour son Dieu. Et Dieu a vu tout ça. Dieu voit ce que nous faisons, ce que nous sommes dans le secret. David était tout seul. Et on va le voir par la suite aussi, qu'il était sérieux. Il était vrai. Il était entier, même dans son travail auprès des moutons. Et puis, quand Samuel est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu l'onction de Dieu, la corne d'huile était déversée sur sa tête. C'était la marque qu'il allait devenir le nouveau roi dans la famille. Ça a été un chamboulement, tout le monde s'est dit, mince, de celui sur qui on n'a pas compté, c'est lui qui va être le nouveau roi. Dans la ville, les anciens, tout ça, il y a dû avoir quand même un peu de remue-ménage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont dit, allez David, maintenant tu vas plus derrière les moutons, maintenant tu vas être dans la ville, une position d'autorité? Ben non, il est reparti derrière les moutons. Dieu lui donne la promesse qu'il va être le roi, et qu'est-ce qu'il fait lui? En attendant, il sait que les temps appartiennent à Dieu, et que Dieu est le maître des temps et des circonstances, eh bien, il retourne à son travail, tout simplement, sachant que le Seigneur accomplira ses projets dans le temps qu'il voudra. Si vous lisez la suite, d'ailleurs, vous apercevrez que grâce à son talent musical, ben, il a été appelé dans la cour du roi Saül. Saül qui avait aucune connaissance, à part la phrase qu'on a lue tout à l'heure, que Dieu avait déjà choisi quelqu'un. Saül n'avait aucune connaissance que c'était David. C'est Saül lui-même qui a fait venir David dans la cour du roi, qu'il a fait connaître le palais. Parce que Saül, rejeté par Dieu, a laissé un mauvais esprit rentrer en lui et était soulagé seulement quand David jouait de la musique. Et qu'est-ce qu'il devait bien jouer, David? Moi, je suis sûr que face aux moutons et aux brebis, il devait s'entraîner à la musique. Il devait s'entraîner à la fronde. Il devait s'entraîner à toutes sortes de choses. À être un guerrier aussi. Mais tout ça, il le faisait parce qu'il avait compris que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à ce que nous faisons quand nous sommes seuls. Dieu regarde à ce que nous faisons quand personne n'est autour de nous, quand personne nous applaudit. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Est-ce que votre cœur est tout entier à Dieu? Ça, c'est une question. Hein? Alors, si c'est le cas, ben, le Seigneur parcourt ses regards. Là, en ce moment, le Seigneur parcourt toute la terre. Vous inquiétez pas, c'est pas trop difficile pour lui. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il peut toute chose. Toute la terre en même temps, d'un seul regard, il regarde et il voit ceux qui sont tout entiers pour lui. David, c'était son cas. Et David, il avait aussi ce cœur attaché à l'œuvre de Dieu. Regardez, on vient de parler de ce que Dieu pense de David, c'est quand même intéressant. Vous allez voir ce que son frère pense de David. C'est aussi instructif sur le frère. 1 Samuel 17, verset 28. Donc le chapitre suivant. Éliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Voyez ce frère? Oh, qu'est-ce qu'il était inspiré, hein? Dieu dit, c'est un homme selon mon cœur, et lui, il dit, je connais la malice de ton cœur, l'orgueil. Et parfois, on entend des paroles dures envers nous. Ça peut arriver. Mais qu'est-ce qu'il vaut mieux écouter? Ce que le Seigneur dit de nous, ou ce que les hommes disent de nous? On voit bien que ce qu'il était en train de dire là, c'était pas vrai. Et souvent, vous remarquerez, avec l'expérience, on le voit, que ceux dont on nous accuse, c'est souvent les gens qui nous accusent qui en sont plus touchés que nous. Souvent. Alors parfois, on vient nous reprendre et c'est pour de bonnes raisons. Hein. Mais moi, j'ai remarqué souvent quand on nous fait des reproches, quand on critique, ceux dont on nous reproche, ben, les personnes, elles le font plus que nous encore. Et elles s'en rendent pas compte, c'est ça le pire. Vous souvenez l'histoire de la poutre et de la paille dans l'œil? Et cet homme dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Et là, on voit que c'est son orgueil et la malice de son cœur qui parle et qui font que il est jaloux. Lui, il pensait, le frère aîné, il pensait qu'il allait être le nouveau roi d'Israël. Et c'est David qui a été choisi. David, le dernier, le genou, le rouquin, c'est lui qui a été choisi. Et là, il le voit débarquer. Alors que c'est dans un contexte, vous savez, c'est face à Goliath qui est en train de répéter son défi. Il faut qu'il envoie un homme d'Israël, et si j'arrive à le battre, on sera vos maîtres, et si c'est lui qui arrive à vous battre, vous serez nos maîtres. Et tout le peuple d'Israël était tremblant, sauf ben, le petit genou, David, qui est arrivé et qui a commencé à poser des questions, mais ça dérange personne. Il y a que moi que ça dérange. David, celui qui était même pas équipé, même pas soldat, le berger, sûrement qu'il avait son bâton. David était attaché à l'œuvre de Dieu parce que quand il entendait Goliath se moquer de Dieu, son cœur bouillait à l'intérieur. Comment est-ce que notre cœur réagit quand on entend les gens qui se moquent de Dieu? Ah, ça veut pas dire de faire du mal aux gens, c'est pas ça dont je parle. Mais comment est-ce que nous sommes quand on entend des moqueries sur Dieu? Quand on en voit des gens qui méprisent le bien, qui méprisent les bonnes choses, qui se moquent du Seigneur? Est-ce qu'on est indifférent? Bon, c'est pas grave, ça va passer. Ou est-ce qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui est là? Seigneur, Je veux agir pour ton règne. Je veux montrer que tu es un Dieu d'amour. » Et David, il prend à cœur l'œuvre de Dieu. David, il commence à se diriger vers le roi Saül et il dit, moi, s'il y a personne d'autre, moi je veux bien y aller. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais David est celui qui est sérieux avec ce qu'on lui confie. Il est sérieux avec l'œuvre de Dieu et il rappelle, parce que Saül est quand même un petit peu dubitatif par rapport à ce petit garçon qui est là et qui lui dit, je vais me battre contre le géant Goliath. Il s'est dit, mais tu n'es qu'un enfant. Alors regardez ce qu'il rappelle au verset 31. « Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Ça paraît totalement naturel. Hein. « Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion, l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » On ne mesure pas l'importance des petites victoires dans notre secret, dans le secret de nos cœurs. Souvent, on veut vivre des grandes victoires devant tout le monde. Mais avant que David reçoive les honneurs, la gloire comme il l'a reçue après avoir tué Goliath, il y a eu ces victoires qu'il a dû vivre et les combats qu'il a dû vivre tout seul. Quand il a arraché la brebis la gueule du lion ou de l'ours, ben encore une fois, personne ne l'applaudit. Même ses parents à la maison, ils n'ont même pas voulu écouter l'histoire, j'imagine. Ils ont dit, c'est normal, c'est ton travail, t'es fait pour ça. Mais David était sérieux et attaché. Ce que le Seigneur lui avait confié, même si c'était pas glorieux, il voulait le faire de son mieux. Est-ce que nous faisons les petites choses que le Seigneur nous confie de notre mieux? Ou est-ce qu'on dit, en attendant, moi je suis fait pour faire des grandes choses. Un jour, un jeune homme est venu voir un pasteur, il a dit, ah, moi j'ai reçu un ministère fort, un ministère pour toutes les nations. Et alors le pasteur lui dit, mais tu es sûr, c'est vraiment un grand ministère, un ministère puissant. Et oui, c'est ça, exactement, c'est ce ministère-là dont je parle. Mais tu es d'accord avec moi, le plus grand de tous les ministères. Oui, c'est ça, le Seigneur m'appelle à ça. Alors tiens, je te confie le balai. C'est ça le plus grand de tous les ministères. Parce que le Seigneur a dit qu'il fallait être un serviteur. Non, mais moi je parlais pas de ça, moi je parlais de prêcher, je parlais d'être pasteur, de prêcher devant des foules, des milliers. Mais le pasteur lui a dit, mais il faut que tu commences par là, parce que c'est celui qui est final dans les petites choses que le Seigneur va confier de plus grandes. Et des fois on est là, on veut tout de suite les grandes choses, on veut tout de suite les grands miracles, mais on n'est pas fidèle dans les petites choses que le Seigneur nous a confiées. On n'est pas sérieux, on n'est pas attaché, on se dit, bah, de toute façon personne ne voit, c'est pas grave, je paye pas telle ou telle taxe, c'est pas grave, personne ne le voit. Je fais ceci ou je fais cela, mais c'est pas conforme à ce que Dieu nous demande, c'est pas grave, personne ne me voit. Et après on dit, Seigneur, oh, pourquoi tu ne l'exauces pas? Seigneur, pourquoi tu n'ouvres pas les portes? Seigneur, pourquoi? Ben, parce que notre cœur n'est pas tout entier. Si notre cœur est tout entier au Seigneur, si notre cœur est attaché, profondément attaché, oh, et David, il était attaché à ses brebis, oui, c'était le rebut de sa famille, oui, c'était l'emploi qu'on donnait aux serviteurs, aux esclaves, mais lui, il était attaché aux brebis, lui, il aimait ses brebis, et quand il voyait une menace, un danger, alors il courait. Vous imaginez la rage, vous imaginez la force, le courage qu'il fallait pour affronter un lion ou un ours, mais il le faisait parce qu'il aimait les brebis. Et ça, c'est quelque chose qui a attiré le cœur de Dieu. Est-ce que nous sommes de ceux qui aimons ceux qui nous entourent? Est-ce que nous sommes de ceux qui aimons ceux qui nous sont confiés? Quand le Seigneur nous donne une famille, est-ce que nous sommes de ceux qui en prenons soin de cette famille? Est-ce que nous sommes de ceux qui veillons sur les brebis qui sont à notre portée? Est-ce que nous sommes de ceux qui prenons soin les uns des autres avec notre frère, notre sœur qui est peut-être découragé? Est-ce que nous sommes de ceux qui lui envoient un texto, qui vont le visiter, qui parlent avec lui? David, il était sérieux. David, il était vrai. David, il était pour le Seigneur. Et c'est parce que Dieu a vu ce trait de caractère dans son cœur qu'il a choisi. Ben oui, après tout, est-ce que vous n'aimez pas d'un roi qui aime chacune de ses brebis? Ben, c'est tellement mieux qu'un roi qui veut bien paraître face à tout le monde. Honore-moi devant les anciens, dit-il, Saül à Samuel. Je veux avoir une bonne apparence devant les anciens. David, c'était l'inverse. David, il dit, moi, je veux surtout être conforme à ce que Dieu demande. Dans 1 Samuel 24, verset 6, il est dit, je vous mets le contexte et je termine avec ce passage. Je vous passe les détails, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais Saül a commencé à poursuivre David dès l'instant où il a compris qu'il allait devenir le nouveau roi. Il a commencé à vouloir le tuer. Et avec son armée, il a poursuivi David dans tout le pays d'Israël. Et un jour, alors qu'il était réfugié dans le désert, dans une caverne, Saül est venu dans cette caverne. Et il est passé un temps là, tout seul. Et ce qu'il savait pas, c'est que dans le fond de la caverne, il y avait David et tous ses hommes à lui, avec leurs épées. Et là, les hommes de David disaient, vas-y, l'Éternel le livre contre toi, l'Éternel le livre entre tes mains plutôt. L'Éternel te permet de mettre fin à toi, à ta fuite, à ta persécution. Combien de fois David avait évité les lances de Saül? Combien de fois David avait évité les pièges? Et vous savez ce qu'a dit David? Je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Je ne toucherai pas à celui que Dieu a donné son onction un jour. Même si aujourd'hui il fait pas les choses bien, je ne toucherai pas à ce que Dieu a mis en place. Je serai patient, j'attendrai la promesse du Seigneur. David était attaché au temps de Dieu. Des fois, nous, on est impatients. Enfin, peut-être pas vous. Mais quand le Seigneur nous donne des promesses, on dit, Seigneur, ça commence à faire là ta promesse. Hein, je vois rien qui change. Et David aurait pu dire, Seigneur, je vois rien qui change, je vais m'en occuper. L'épée, hop, un petit coup de glaive, et l'histoire est finie. Il était tranquille, il pouvait retourner à Jérusalem, il pouvait devenir roi, plus aucun obstacle, plus de danger, plus de persécution. Vous savez, on a vite fait avec des glaives de résoudre les situations. Mais ça, c'est pas l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous appelle pas à faire du mal. Le Seigneur nous appelle à faire du bien. Et David, il a pris son glaive, mais il a découpé un morceau du vêtement du roi, sans qu'il s'en aperçoive. Il a attendu que le roi sorte, et puis il a monté un petit peu au-dessus, sur la colline au-dessus, et il a dit, roi, regarde. D'ailleurs, le verset 6, c'est ça. Après cela, une fois qu'il a coupé ce morceau, le cœur lui battit. Ça veut dire qu'il y a eu un tremblement dans son cœur, une émotion particulière dans son cœur, parce qu'il avait coupé le bout du manteau du roi. Est-ce que nous avons cette sensibilité à ne pas vouloir nous venger? Vous savez, aujourd'hui, on dit, qui t'a fait du mal, fais-lui du mal. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Eh bien non, la Bible a dit l'inverse. À ceux qui nous font du mal, faisons du bien. À ceux qui nous font du mal, prions pour eux. Bénissons-les. N'agissons pas sous le coup de la vengeance ou sous le coup de la colère. N'écoutons pas tous ceux qui veulent nous pousser dans cette direction-là non plus. Mais soyons de ceux qui ont un cœur sensible à l'amour de Dieu. Il y a des choses qui passent, il y a des valeurs qui passent. Mais l'amour de Dieu ne passera jamais. Il y a des façons de faire, des façons de raisonner qui sont un petit peu à la mode, mais nous voulons être à la mode du ciel qui ne passe jamais, c'est-à-dire sous l'influence de l'amour de Dieu. Et puis il a pris ce bout de manteau, il a secoué, il a dit, hey, « Hé, roi Saül, regarde ce que j'ai dans ma main. J'aurais pu te tuer, je l'ai pas fait. Ah, pourquoi me persécutes-tu? Je ne veux pas ton malheur. » Et vous savez ce qui s'est passé? Ce jour-là, Saül, ce gros baraquet, s'est mis à pleurer comme un enfant, touché par l'amour que cet homme a montré envers lui. Est-ce que c'est pas là une raison pourquoi on peut dire que David est un roi de cœur? Un roi qui a un cœur qui attire le cœur de Dieu, qui attire le regard de Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons juste avoir une foi tranquille, confortable? Ou est-ce que nous voulons que le regard du Seigneur soit attiré sur nos vies, Et ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Si j'ai mon cœur tout entier pour Dieu, alors le regard du Seigneur ce matin va être attiré sur ma vie. Et vous inquiétez pas, quand le regard de Dieu est attiré sur ma vie, ça résout beaucoup de soucis, ça résout beaucoup de problèmes. Oh, c'est pas la vie qui se transforme en nubie, en rose, des pétales de rose, des tapis rouges, c'est pas ça. Mais dans les moments difficiles, dans les persécutions, dans les temps compliqués, le Seigneur est là. Et le Seigneur nous conduit. Qui ce matin veut dire « je veux mettre mon oreille sur le cœur du Seigneur ? Je veux écouter ce qu'il veut me dire à moi ?» Qui ce matin veut dire « moi je veux être un David ? Je veux être quelqu'un qui règne dans la vie parce que j'ai un cœur, selon le cœur de Dieu tout simplement. » On va fermer les yeux quelques instants. J'ai invité les musiciens à venir, je voudrais qu'on puisse chanter ce chant. Ce chant qui nous dit « je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus ». Mais je voudrais vous inviter à peser chacune des paroles. Je te donne mon cœur, Seigneur. Et je m'adresse à ceux peut-être qui n'ont pas encore donné leur cœur. La foi, ce n'est pas juste de croire en Dieu, mais c'est donner son cœur toute sa vie à Dieu. C'est ça la foi. Croire en Dieu, la Bible nous dit que les démons croient en Dieu, mais ils n'ont pas donné leur vie à Dieu. Et ils ne sont pas sauvés. Je m'adresse à ceux qui sont dans ce cas, qui ne sont pas sauvés, qui voudraient dire « Seigneur, je te donne mon cœur ». Repentez-vous, convertissez-vous et le Seigneur vous acceptera dans sa famille. C'est tellement simple. Il ne m'appartient plus ce cœur. Ça veut dire « Seigneur, ce que tu vas me dire, ce que tu vas me montrer, je vais l'accomplir. Ce que j'ai de meilleur, je le fais pour toi. » La Bible nous dit, tout ce que nous faisons, faisons-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Même si c'est garder les brebis, même si c'est faire ce que personne n'a envie de faire, même si c'est passer le balai, faisons-le pour le Seigneur. Même si c'est visiter des mamies qui radotent, faisons-le pour le Seigneur. Parce que c'est lui qui va nous élever le jour où il le décidera. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as une promesse qui n'a pas encore été accomplie? Alors aie ce cœur patient qui dit « Seigneur, je veux attendre ton temps à toi ». David, vous savez combien d'années il a attendu? Des dizaines d'années il a attendu avant de pouvoir devenir roi. Parce que Dieu avait préparé une formation pour lui. Mais David est passé au travers de cette formation et a enfin vu la promesse s'accomplir. Parce qu'il est demeuré fidèle et persévérant. Tu veux voir la promesse s'accomplir dans ta vie, alors sois fidèle, sois persévérant. Mets ton cœur tous les jours sur le cœur du Seigneur, contre son cœur et reçois de lui son amour et sa grâce. Et tu vas voir que le Seigneur va accomplir la promesse pour toi. Je voudrais vous inviter à...